Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Biotope, une émission financée par BioValley et qui essaye de mettre en valeur les initiatives prises par des citoyens, des institutions, des associations et des entreprises pour faire en sorte que cette belle vallée de la Drôme soit de plus en plus bio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Euran, un des créateurs du restaurant Loco Loco, situé rue de l'Armellerie à Die, et qui travaille autant que possible avec des producteurs locaux et bio, et qui a l'ambition d'être ce qu'il appelle un atelier d'expression et d'attention. Bonjour Vincent.
Bonjour Louis.
Alors, c'est un bel endroit, je le dis tout de suite, moi je ne suis pas très objectif, mais est-ce que tu pourrais nous faire un peu la genèse de ce projet? Comment est-il né?
Le Loco Loco est né de la rencontre de plusieurs personnes, il y a 2 ans. Alors je les nomme parce qu'ils sont importants dans l'histoire de ce restaurant. Magali Ozanne, Damien Fourou, Florence Huvette et Nathalie Portaz et moi-même. On s'est tous retrouvés autour de cette envie de proposer à Die un petit restaurant. On avait l'idée de créer une cantine, ce qu'on appelle une cantine, c'est-à-dire un lieu qui accueille au quotidien une communauté de gens. C'était un peu notre ambition de faire un lieu simple, abordable, où on puisse se retrouver tout en mangeant et être à la fois dans le quotidien et être à la fois dans un endroit particulier qui a une personnalité, une sensibilité. Voilà, et donc tous les 5, on a travaillé un certain nombre de mois pour que ce restaurant Loco-Loco existe, et on a travaillé de cette manière dans le cadre de cette association Antilis pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était difficile pour nous de mener ce projet, d'être un peu sur tous les fronts en même temps, à la fois le front économique, le front humain, l'aspect financier, l'aspect administratif. On découvrait tous, je crois, ce domaine d'activité. On s'est rendu compte que dans ce cadre, c'était pas raisonnable de poursuivre, et c'est vrai que du coup, on s'est décidé, au bout de 8 mois peut-être, on s'est décidé de revendre ce fonds de commerce et moi j'ai proposé de racheter puisque j'avais réellement l'envie de le poursuivre et de le continuer, mais du coup dans le cadre d'une entreprise et plus d'une association. Voilà un peu l'histoire de ce Loco-Loco.
Au début, c'était particulièrement collectif. Hein. Vous avez fait des travaux de fond en comble. Vous avez pris un fonds de commerce et vous avez fait beaucoup de travaux. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués. C'était une belle histoire quand même.
Ouais, c'est vrai que c'était chouette. C'était notre idée. C'était de laisser de la place, de permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir s'y investir, de pouvoir donner à leur tour dans ce lieu. Alors, au moment des travaux, au moment un peu de l'aménagement, pour la décoration, pour les expositions, notre idée était de faire en sorte que ce lieu puisse être la propriété d'un plus grand nombre et de ceux qui partagent nos valeurs, enfin les valeurs qu'on avait comme ça un peu travaillées, parce qu'il a fallu qu'on écrive un projet pour le présenter à un certain nombre d'organismes. Et voilà, c'était l'idée de mettre en commun une énergie qu'on trouve dans le Diwa. Et c'était, voilà, c'était ça, de mettre en mouvement cette énergie-là.
Alors, à ton avis, le fait que ça soit passé d'une association collective à un restaurant personnel, est-ce que tu as perdu un petit peu en cet esprit qui voulait un peu, pas changer le monde, mais proposer autre chose à un espace convivial et chaleureux? Est-ce que cet esprit, tu as réussi à le conserver?
Je l'espère et je travaille beaucoup pour ça. Je crois que j'essaye de faire vivre à la fois un projet économique avec cette réalité qui est celle-là, avec des charges, des salaires, puisqu'il y a aujourd'hui 3 personnes à temps partiel. Là, je vais m'associer avec quelqu'un, Thierry Mignot, donc on va encore un petit peu changer la structure de cette entreprise. Donc on est à 2 à mener un peu cette entreprise. Et j'espère, oui, donc de mener de front à la fois ce projet économique et cette ambition sociale, c'est-à-dire de de laisser cette porte ouverte, de profiter de cet espace qui est un espace relativement grand, qui a une vitrine, qui a un peu pignon sur rue, dans une rue quand même assez passante. L'idée qu'on essaye de défendre est de pouvoir faire profiter aussi à ceux qui en ont besoin, de faire profiter de cet espace, et que l'endroit puisse servir aussi à d'autres, pour montrer ce qu'ils font, le faire vivre, être un lieu aussi d'échange, de rencontre, et que toutes ces personnalités, ces individualités, toutes ces savoir-faire puissent se rencontrer et se faire connaître à l'intérieur du loco-loco. Donc c'est vrai que mon ambition est à la fois de garder cette visée économique et d'entreprise et cette visée aussi associative où on se regroupe et on essaye de s'épauler les uns les autres. C'est un peu cette ambition de se soutenir, je crois, qu'il y a besoin de ça.
Oui, ça se retrouve très bien justement dans l'aménagement intérieur de ton restaurant, puisque sont bien cités tous les producteurs locaux qui te fournissent, et il y a même des petites étagères avec leurs produits, donc non seulement c'est un restaurant, mais tu mets en valeur ces producteurs locaux, et voir, on en parlera peut-être en deuxième partie d'émission, tous les créateurs qui veulent bien passer, ou tous les gens qui proposent des ateliers ou des événements qui se passent dans ton lieu.
Ouais, alors ça c'était une idée avec Cantilis que j'ai gardée, évidemment, puisque c'est un peu au cœur de ce projet, ce qu'on appelle une petite épicerie, donc c'est tout bêtement des étagères où on met à disposition et à la vente des produits d'un certain nombre de personnes du coin. Alors il y a des sirops par Céline, il y a des chutneys par Sandra, toutes sortes de tisanes et d'hydrolats par Nathalie et Florence, Véronica qui est aussi présente. Enfin, il y a tout un monde comme ça de gens qui travaillent beaucoup, qui font de très belles choses et qui j'ai envie de soutenir. Et eux me soutiennent aussi. Enfin, on est dans le soutien réellement les uns les autres. On est dans le partage d'intérêts. On s'intéresse les uns les autres à ce qu'on fait, quoi. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à être entouré de ce que font les autres, parce que c'est vrai, je suis très admiratif de tous ces gens qui travaillent beaucoup, qui font les choses avec beaucoup de passion, beaucoup de soin, et c'est difficile pour toutes ces personnes de vivre de leur travail. Ben oui, parce que ben, la réalité est ce qu'elle est, quoi. Des fois on travaille beaucoup et c'est compliqué, mais on sent bien toute cette énergie, cette envie de faire des choses, cette envie de transformer peut-être aussi d'une certaine manière un peu le monde, enfin en tous les cas celui qui nous entoure, enfin de faire quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de poésie aussi dans ce que font toutes ces personnes, hein. Je pense aussi au bouquet de fleurs de Sandra Burger, aux confitures des uns et des autres. Il y a quelque chose qui est transmis à travers ces réalisations, à travers ces produits. Et c'est bon d'être entouré de tout ça, parce que ben, ça soutient. Et j'ai envie d'en faire profiter, évidemment, les touristes, d'ailleurs, parce qu'ils sont souvent très amateurs de ça. Ils reconnaissent aussi, ils sont, je crois, souvent en recherche de cette authenticité, de cette humanité, quoi, qui se voit tout de suite, hein. Et je lui dis, il suffit de voir un pot de chutney et voilà, on a envie de rencontrer la personne. Moi, je suis très entouré des gens qui font de la clairette de Die, Thierry Marcel, de la bière, du vin, des olives, des légumes, bien sûr. Tous ces gens, voilà, forment une belle communauté, très souriante et très vivante.
Et ce qui te permet d'être tout à fait en phase avec l'air du temps, quand on parle de bio et d'écologie, on parle souvent de circuit court. Et toi, tu as rajouté en plus cette dimension humaine de soutien mutuel. Et ça, c'est beau et c'est efficace.
C'est sûr que ce qui m'intéresse avant tout, c'est évidemment le relationnel, l'échange. J'aurais pas de plaisir, même un produit issu de l'agriculture biologique, si j'ai affaire à quelqu'un avec qui je ne partage pas certaines qualités de relation, quoi. Qu'on appelle le biologique, ben c'est aussi ça. Ça s'accompagne de ça. Enfin, dans mon parcours, même avant d'arriver à Die et ailleurs, j'ai pu côtoyer des agriculteurs, des éleveurs. J'étais très ami avec un crêpier à Angers qui faisait la plus belle galette de blé noir du monde, hein, allez, disons-le. Et c'était magnifique. Mais c'était une personne aussi, évidemment, qu'on rencontrait. Et la galette, elle a le goût de la personne. Elle a le goût de cet intérêt pour la vie. Pour les choses bien faites, ouais.
Mais alors justement, quand tu t'es lancé dans ce projet, donc tu as dit que tu avais découvert ces réalités économiques qui ont été peut-être un peu abruptes et arides, mais est-ce que tu avais au moins quelques compétences de cuistot ?
Ben, pas beaucoup, hein, en fait. Je savais un peu cuisiner, évidemment, avant de me lancer dans cette aventure. Voilà, pour parler un peu de moi comme ça. Avant, j'étais éducateur spécialisé et au bout d'une bonne dizaine, quinzaine d'années de travail, je me suis senti vraiment très fatigué, quoi. Et il fallait que je fasse autre chose de ma vie. C'était absolument indispensable. Je pouvais plus faire ce travail comme j'avais envie de le faire. Je suis parti en voyage. Et au Pérou, dans une petite ville du Pérou, j'ai découvert un petit restaurant. Et dans ce restaurant, j'avais emmené la copine qui était avec moi et je lui ai dit, ah, oh, dis donc, tu sais, j'aimerais bien créer un petit endroit comme ça. Ça me plairait, quoi. Voilà. Et au retour de voyage, j'avais toujours un peu cette idée de restauration. Et il se trouve que je suis né à Die et je suis passé par Die et j'ai vu qu'il y avait un festival sur la Turquie. Et à ce moment-là, j'avais aussi envie d'apprendre la cuisine du Moyen-Orient, la Turquie, la Syrie, le Liban. Et je suis devenu ami avec Véronique Amantel, qui était cuisinière là pour ce festival. Et du coup, je suis resté avec elle. Et avec elle, j'ai commencé à faire de la cuisine un peu à l'occasion de buffets, de transformations, de choses. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un peu de cuisine dans un cadre un peu pro, quoi, disons. Et ce projet est venu comme ça, un peu comme l'aboutissement d'une quête.
Tu sais que tu es interviewé dans le cadre d'une émission qui valorise le bio. Alors je sais aussi que Locoloco n'est pas spécifiquement bio, même si, comme on l'a déjà dit, tu privilégiais forcément les circuits courts avec des relations humaines de qualité. Qu'est-ce que tu penserais, toi, du bio ? Comment qualifierais-tu ton restaurant ? Est-il plus ou moins bio, plus bio que moins ?
Je ne sais pas trop, 95% avec des produits bio. Quelquefois, il m'arrive de ne pas avoir ce que je veux et puis d'aller dans une boucherie ou d'aller dans une boulangerie ou d'aller même, pourquoi pas, au supermarché, trouver ce qu'il me faut pour compléter ma recette. Et ça ne me pose aucun problème, quoi. Ce n'est pas annoncé au devant et nulle part, d'ailleurs, qu'on travaille avec des produits bio. Pour des raisons techniques, c'est qu'il faut avoir tous les agréments de tous les producteurs, je crois, dans le restaurant et de voilà, en cas de contrôle, de pouvoir les afficher, même au public. Il faut que ces agréments puissent être visibles. Ça, c'est un début d'explication. Ensuite, je ne crois pas qu'on ait besoin aussi de tout dire et que le client, il peut aussi deviner les choses et de cette manière-là, être d'une certaine manière un peu acteur de son entrée dans le restaurant et de sa consommation, du choix qu'il fait quand il circule. A dit et qu'il cherche un endroit pour manger. Donc c'est une manière ouais, pour moi aussi de provoquer la rencontre. Et puis ensuite, quel plaisir aussi de pouvoir dire au client, ben voilà, la personne qui fait par exemple la viande, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui est en bio, oui, qui travaille dans la vallée de Quin, ou celui qui fait de la glace, Sylvain Truffet, les sorbets merveilleux. Et c'est quel plaisir d'en parler et de le dire. Alors les gens ne sont pas surpris parce qu'ils le savent sans que ça soit écrit. Ils le comprennent bien et c'est pour ça qu'il rentre. Il y a quelque chose comme ça que je trouve assez fascinant, c'est de laisser l'autre aussi se saisir d'une chose et puis la deviner et puis pouvoir en parler. Si tout est dit dès le départ, si tout est dit sur la vitrine ou sur les ardoises d'entrée, bon ben on a plus rien à se dire. Alors bon ben vous mangez, vous vous asseyez et puis c'est terminé. Non, c'est pas du tout comme ça que je vois la chose, quoi. C'est un investissement de ma part, bien sûr, puisque ben moi je suis généralement au service. Et un investissement aussi de la personne qui vient manger. Si elle n'est pas dans cette volonté, ben, elle peut rester en même temps discrète ou alors, du coup, aller manger ailleurs. Et ça, c'est la liberté de chacun. Et je trouve que c'est très, très précieux, quoi.
Pour en venir à tes fournisseurs qui sont souvent locaux, est-ce que ça te prend beaucoup de travail ? Même, est-ce que tu as une fonction de prescripteur ? Tu leur dis, moi, je préférais des produits comme ça. Ou est-ce que ça se passe tellement facilement qu'il n'y a même pas besoin d'en parler ?
Alors on essaye de mettre en place un fonctionnement, de mettre en place quelque chose pour qu'on puisse s'organiser. C'est pas toujours évident parce que ben, c'est vrai qu'on a les producteurs, éleveurs ou maraîchers, ne sont pas évidemment de gros exploitants. Par exemple, pour le maraîchage, là, avec la saison qu'il y a eu là, de fin de printemps, début d'été, les récoltes ont été difficiles. Donc c'est vrai que sur le marché, proprement dit, ben, on ne trouvait pas forcément de tout. Alors là, j'ai et encore aujourd'hui, je suis obligé de me fournir, voilà, auprès de certains fournisseurs comme Relais Vert par exemple ou Marcal. Bon, surtout Relais Vert en fait, qui me fournit des légumes qu'on ne peut pas trouver ici. Voilà, ou en début de saison, et petit à petit, on va vers les maraîchers. Enfin, on essaye de combiner tout ça. On jongle avec ce qu'il y a, avec la réalité. Voilà, on fait avec la saison, on fait avec les intempéries, on fait avec ce qu'on trouve aussi sur le marché. Les éleveurs, ils tuent de temps en temps une bête, mais c'est pas non plus... voilà, on n'a pas...
Que pour toi ?
Alors, un peu cher, non. La pauvre, je lui souhaite pas ça. Elle est sans doute... partager. Voilà, alors on fait au mieux, on s'appelle, on se voit, et c'est encore une fois une histoire de rencontre, une histoire de gens qui essayent de travailler ensemble.
Est-ce que tu as l'impression quand même d'avoir une légère influence, que tu induis des productions quand même par tes demandes?
Non, je crois que c'est ensemble qu'on essaye d'inventer. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup aussi. Voilà, tiens, moi, je pourrais faire ça, je pourrais produire ça. Ah ben moi, tiens, ça va me donner l'idée de faire ça. Tiens, je pourrais peut-être travailler la chose comme ça. Oui, donc on invente ensemble. Voilà, on est créateur, encore une fois. C'est peut-être un peu prétentieux, mais moi, je le crois. Enfin, on peut être créateur simplement avec des choses de simples, une courgette et voilà, pourquoi pas. Hein. Et ouais. Alors, j'aimerais développer ça davantage encore, ce travail commun comme ça, cet échange. Mais je crois que c'est avec le temps, petit à petit, que les choses vont se peaufiner, qu'on va prendre le temps. C'est aussi un peu le début, mine de rien, et qu'il y a encore plein de choses où je tâtonne, je ne sais pas encore. On essaye de faire au mieux, mais ça, c'est une belle chose aussi. Heureusement que tout n'est pas fini et qu'on a encore tout un volet de progression et de choses à mettre en place, quoi. Ouais.
Alors Vincent, en introduction, hein, j'ai utilisé une expression qui venait de toi d'ailleurs et qui serait peut-être venu maintenant le temps d'expliquer, à savoir des ateliers d'expression et d'attention. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ?
Alors cette petite phrase est venue d'une discussion que j'ai eue avec Thierry Mignot, donc mon associé. Cette discussion est venue parce qu'on avait envie de trouver quelque chose, une phrase qui pouvait résumer un peu ce qu'on voulait être ou ce qu'on était. Voilà, et donc c'est venu atelier d'expression et d'attention. Et alors c'est formidable parce que il me semble que dans un atelier, on peut imaginer plein de choses, on peut pourquoi pas tout faire, enfin rien n'est interdit, rien n'est impossible. Enfin, après tout, dans un atelier, ben, on peut tenter des choses, on peut expérimenter. Ben, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'expérimenter. On tente, on élabore, on met au point des recettes, tiens, des recettes de cuisine, mais aussi des recettes humaines. Qu'est-ce qu'on se questionne aussi ? C'est un endroit où on essaye. On se questionne, voilà, sur nos pratiques, sur notre fonctionnement. Moi, je me rends compte aussi, à l'intérieur de cet atelier, à quel point, j'ai un certain nombre de choses à améliorer. Enfin, ça, c'est certain dans cet atelier. Il faut que, il y a tout plein de choses à améliorer. Donc c'est un peu notre ambition. Et puis, dans un atelier, on peut se tromper. Donc, ça c'est formidable parce que ça laisse la place à ça. Et puis si un jour on me dit c'est pas bien, je vais dire mais vous êtes dans un atelier, monsieur. Donc, excusez. Non, enfin voilà. Et l'attention. Alors l'expression, c'est parce que à l'intérieur de cet atelier, de ce loco-loco, on invite chacun. À la fois le public, des artistes, des artisans, des producteurs. C'est le lieu de l'expression. Chacun. C'est le lieu de l'expression aussi des personnes qui travaillent dans ce restaurant. Et puis l'attention, parce que, tout bêtement, parce qu'on essaye de faire attention à ce qu'on fait, et puis en même temps qu'on fait attention à ce qu'on fait, on invite les autres à faire aussi attention à ce qu'ils font quand ils rentrent. Voilà, c'est un partage d'attention. Et qu'à ce moment-là, dans ce partage-là, il se passe quelque chose. Il y a de la fragilité aussi, et c'est à cet instant qu'il peut y avoir de l'émotion et de l'envie et du plaisir à être là et de l'envie de revenir, parce que ça, je le souhaite aussi. Je souhaite que le client, évidemment, il soit bien et qu'il ait envie de revenir. Comme ça arrive régulièrement, la personne est contente et elle revient. Donc ça c'est chouette. C'est une manière aussi, dans ce projet économique, bien sûr, il est question de fidéliser aussi une clientèle et de faire en sorte que cette clientèle revienne. Et c'est loin d'être facile. Rien n'est acquis là du tout. Tout ça, c'est très fragile. Mais il y a de la stratégie aussi là-dedans. Enfin, on essaye de mettre en place des choses et ça n'a rien, de mon point de vue, de choquant. Mais non, on met en place des choses pour que ça puisse durer.
Alors, je vais complémenter parce que toi, tu es resté un petit peu sur des grands principes, superbe, des grands principes. Tu n'as pas été très précis. Il faut savoir que dans le loco-loco, il y a une profusion de propositions, que ce soit sociales ou culturelles, des ateliers. Alors, peut-être que je vais te demander d'en citer quelques-uns. Mais en tout cas, je vois par exemple la dernière fête de la transhumance, tu as proposé le loco-loco pour qu'il s'y passe quelque chose. C'était Agnès Dauban, la conteuse.
Oui.
Mais des concerts, des ateliers, le garage à fringues.
Ouais, alors, c'est vrai que la première qui me vient, ben effectivement, c'est Marianne Godez qui propose un atelier couture, le garage à fringues depuis un an maintenant, et qui voilà, c'est quelqu'un qui est présente au Loco-Loco depuis le début et qui est une amie, qui est quelqu'un qui soutient ce projet, qui est très très présente et qui est là tous les mercredis après-midi et qui ouvre donc les portes du Loco-Loco pour ce garage à fringues. C'est une chose magnifique. Je suis toujours ravi quand je vois Marianne arriver avec ses machines à coudre. Il y a une ambiance incroyable. Enfin, c'est vraiment chouette. Alors bon, et puis il y a Agnès Dauban, évidemment, qui est venue très régulièrement, presque tous les mois. C'était son petit théâtre, comme elle le disait. Et c'était des moments assez magiques, vraiment tout plein de plaisir. Et puis des concerts. Alors des concerts, c'est souvent l'occasion d'abord d'une rencontre, parce que on va jamais rien chercher. On prend pas l'annuaire des artistes pour. Non, c'est plutôt les gens qui viennent et qui se déplacent et qui ont une certaine motivation pour venir jouer aux locaux. Alors, on se rencontre et puis voilà. Et puis en fonction de ce qui se passe, comment on sent les choses, l'intérêt qu'on peut avoir pour les musiques. On organise quelque chose ensemble. Ce qui me plaît beaucoup, c'est d'arriver à organiser et créer la soirée ensemble. C'est vraiment dans un échange qu'on crée ce moment. Voilà. Et puis des expositions. En ce moment, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Yann Le Crouenec, qui est en train d'investir un peu tout le lieu et donc il le transforme. Il est en train de préparer quelque chose qui va être assez chouette. On en reparlera peut-être sur Air des Voix, mais il est en train de préparer quelque chose de très très beau.
Tu as des partenariats avec le SCDD par exemple?
Ouais, alors avec l'espace social, c'est vrai qu'on a fait quelques chantiers éducatifs. C'était une très très belle chose. J'espère que voilà, ça pourra durer, qu'on pourra encore, parce que c'est vrai que cette idée de pouvoir faire profiter un peu de nos compétences ou de notre goût pour la cuisine et d'en faire profiter quelques jeunes qui peut-être à certains moments ne savent pas trop ou ont envie d'essayer ou alors veulent mobiliser quelques subventions pour des projets, comme ça a été le cas dernièrement, de pouvoir accueillir ces jeunes en cuisine, quoi, et d'élaborer des repas. Ça s'est passé plusieurs fois et c'était vraiment un très très bel échange. Voilà, il y a le trajet spectacle aussi, et avec qui on échange de belles choses, et puis que c'est vraiment magnifique. Et Erdiwa, parce que on est ensemble depuis un bon moment aussi, on se connaît depuis un moment, et puis je fais une jolie émission, enfin je dis jolie parce que je le crois, avec autour de la table, et c'est un bel échange aussi.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Alors Vincent, tu as lancé il y a 2 ans avec une association ce restaurant, le Loco-Loco. Est-ce que tu pourrais nous dire qui a porté le projet et nous décrire un peu ce qu'il en était?
C'est l'association Antilis qui a créé ce restaurant Loco-Loco, hein, avec Nathalie Portas, Florence Huvette, Magali Ozan et Damien Fourou et moi-même. Voilà, il y a 2 ans, voilà, on a lancé ce restaurant Loco-Loco.
Et alors après, vous avez obliqué d'une cantine associative vers un restaurant personnel.
Ouais, c'est devenu une entreprise, une entreprise individuelle. Parce que avec l'association, on a pensé qu'il valait mieux changer un peu notre projet et revendre ce fonds de commerce qu'on venait d'acheter. Donc du coup, je l'ai moi racheté dans le cadre de cette entreprise.
Alors, mais d'un autre côté, tu n'as pas abandonné ce qui faisait la spécificité du Loco-Loco, à savoir un atelier d'expression et d'attention. Hein. En quelques mots, peux-tu décrire un peu ce qui fait la spécificité du Loco-Loco ?
C'est un restaurant, et c'est un restaurant qui a la volonté de faire de la place à ceux qui ont besoin d'exprimer une idée, un sentiment, de partager aussi leur savoir-faire, qu'ils soient artisans, artistes, producteurs, maraîchers. Voilà, c'est faire de la place et faire de la place à ceux qui ont envie de profiter de cet endroit pour se présenter et s'exprimer.
Alors, non seulement il y a une vitrine à ses producteurs, ses maraîchers, etc. Et puis aussi, tu proposes un certain nombre d'événements culturels.
Ouais, des petits concerts, voilà, ça dépend un peu des rencontres qu'on fait. On a quelques fidèles, comme Agnès Dauban, qui est venue très très régulièrement présenter ses contes, Philomène la raconteuse. Marianne Godez et le Garage à fringues, qui est là très souvent. Un atelier d'écriture, un certain nombre d'échanges. Alors, des ateliers de musique aussi ont eu lieu. Voilà, c'est laisser la place à l'enseignement et à l'apprentissage.
Si tu devais transmettre un enseignement, est-ce que tu verrais où le bât a blessé ?
Je dirais que c'est l'enseignement que j'en tire de cette expérience, c'est que d'abord il faut beaucoup travailler et puis avoir du plaisir à faire cette chose-là, trouver du sens. Et pour trouver du sens à cette chose, quelle que soit la chose qu'on fait, je crois que c'est quand on a trouvé ce terrain d'expression, ce support, quel qu'il soit, et quand on peut le développer et petit à petit tirer une ficelle comme ça et voir un peu où ça mène, ben on trouvera du sens et on trouvera l'épanouissement et on trouvera sa place.
Alors, combien ce projet a-t-il coûté et est-ce qu'il y a eu beaucoup de moyens humains nécessaires pour le mettre en œuvre ?
Le fonds de commerce a coûté 30 000 euros. Voilà, donc c'est des amis qui m'ont prêté de l'argent que je rembourse petit à petit. Voilà, et puis aujourd'hui, pour l'été, il y a 3 personnes salariées. Donc, on travaille tous beaucoup pour que la saison d'été, évidemment, et la saison et le reste de l'année, puisqu'il n'est pas question du tout de travailler uniquement l'été pour faire de l'argent, ce n'est pas du tout notre volonté. C'est de travailler au quotidien, d'être là tous les jours et de faire en sorte qu'on ait une place modeste mais importante.
Comment évalues-tu au bout de 2 ans le Loco-Loco ? C'est une réussite ?
Oui, je crois qu'il y a un certain nombre de choses réussies, d'autres non encore, qui sont perfectibles et qu'il faut travailler. Je crois qu'un projet comme celui-là doit s'accompagner aussi d'un travail sur soi, faire quelque chose pour qu'on puisse vivre au mieux ce travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie. On est là tous les jours, hein. Et c'est pas facile de faire face à ces complications qui viennent, ces impératifs ou les charges notamment, enfin les questions d'argent. Donc pour faire face à tout ça, il faut de la volonté. Alors on connaît bien ça, la question du stress par exemple, voilà, c'est faire avec ce stress et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut le transformer pour qu'il soit au quotidien vivable.
Alors, si d'aventure des personnes souhaitaient partager cette expérience, pourrais-tu nous donner un numéro de téléphone, s'il te plaît ?
C'est le 06 85 27 20 67.
Écoutez, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps, Vincent, pour qu'on puisse lister tous les innombrables personnes, associations qui ont proposé ou des concerts ou des expos ou des ateliers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés. Et je crois que tu as réussi à transmettre l'essence même de ce que dégage ton restaurant, c'est-à-dire une qualité d'humanité assez rare, même, je dirais, au-delà même du bio. Et tu aurais quelque chose à rajouter sur ta démarche ?
Non, moi, je te remercie de ton écoute, de l'intérêt que tu portes à ce projet. Et puis, c'est chouette et que vous puissiez peut-être de votre poste m'entendre aussi. Ça me fait bien plaisir. Merci à vous, Erdiwa.
Je te remercie et je te souhaite une très bonne continuation.
Salut.
Au revoir, Vincent.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotop.
Un programme soutenu par BioValley.